Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 6, chapitre 5. Alliance renouvelée, Mélenchon, son mariage, Catherine, vie domestique, bienfaisance, débonnaireté, Christ et l'Antiquité, travail, amour des lettres, sa mère, révolte d'étudiants. Tandis que les habitants de la ville éternelle s'agitaient ainsi, des scènes plus tranquilles se passaient à Wittenberg. Mélenchon y répandait une douce mais éclatante lumière. 1 500 ou 2 000 auditeurs accourus d'Allemagne, d'Angleterre, des Pays-Bas, de France, d'Italie, de Hongrie et de Grèce étaient souvent réunis autour de lui. Il avait 24 ans et n'était pas ecclésiastique. Chacun à Wittenberg aimait à recevoir dans sa maison ce jeune professeur si savant et si aimable. Des universités étrangères, Ingolstadt en particulier, désiraient l'attirer dans leur sein. Ses amis de Wittenberg voulaient, en le mariant, le retenir auprès d'eux. Tout en souhaitant une compagne à son cher Philippe, Luther déclarait hautement ne vouloir pas être son conseiller en cette affaire. D'autres s'en chargèrent. Le jeune docteur fréquentait surtout la maison du bourgmestre Krapp, qui appartenait à une ancienne famille. Krapp avait une fille nommée Catherine, d'un caractère doux et d'une grande sensibilité. On invita Mélenchon à la demander en mariage, mais le jeune savant était enfoncé dans ses livres et ne voulait entendre parler de rien d'autre. Ses auteurs grecs, son testament, étaient ses délices. Aux arguments de ses amis, il opposait d'autres arguments. Enfin, on lui arracha son consentement. On fit pour lui toutes les démarches et on lui donna Catherine pour femme. Il l'accueillit très froidement et dit en poussant un soupir « Dieu l'a donc voulu ainsi. Il faut que je renonce à mes études et à mes joies pour suivre la volonté de mes amis. » Il appréciait cependant les qualités de Catherine. « La jeune fille, dit-il, a un caractère et une éducation telle que je pouvais le demander à Dieu. « Dexia oteos tekmaigroito » ce qui, en grec, signifie « que Dieu, par sa droite, amène la chose à bonne fin ». Certainement, elle eût été digne d'un meilleur mari. Ce fut au mois d'août que la chose se décida. Le 25 septembre, les fiançailles eurent lieu et, à la fin de novembre, le mariage fut célébré. Le vieux Jean Luther et sa femme vinrent à cette occasion à Wittenberg avec leur fille. Beaucoup de savants et de notables assistèrent à la fête. La jeune épouse montrait autant d'affection que le jeune professeur témoignait de froideur. Toujours pleine de sollicitude pour son mari, Catherine s'alarmait dès qu'elle voyait l'apparence d'un danger menacer cet être chéri. Quand Mélenchon se proposait de faire quelques démarches de nature à le compromettre, elle l'accablait de prières pour l'y faire renoncer. « Je dus, écrivait Mélenchon, dans une semblable occasion céder à sa faiblesse. C'est là notre lot. Que d'infidélités dans l'Église ont eu une semblable origine ? Peut-être est-ce à l'influence de Catherine qu'il faut attribuer la timidité et les craintes que souvent on a reprochées à son mari. Catherine fut aussi tendre mère que tendre épouse. Elle donnait avec abondance aux pauvres. « Ô Dieu, ne m'abandonne pas dans ma vieillesse quand mes cheveux commenceront à blanchir. » Tel était le soupir ordinaire de cette âme pieuse et craintive. Mélenchon fut bientôt gagné par l'affection de sa femme. Quand il eut goûté les joies domestiques, il en comprit les douceurs. Il était fait pour les sentir. Nulle part il ne se trouvait plus heureux qu'auprès de sa Catherine et de ses enfants. Un voyageur français, ayant trouvé un jour le maître de l'Allemagne, berçant d'une main son enfant et tenant de l'autre un livre, recula de surprise. Mais Mélenchon, sans se déranger, lui exposa avec tant de chaleur le prix des enfants devant Dieu que l'étranger sortit de la maison, plus savant, dit-il, qu'il n'y était entré. Le mariage de Mélenchon donna un foyer domestique à la Réformation. Il y eut dès lors dans Wittenberg une famille dont la maison était ouverte à tous ceux que la vie nouvelle animait. Le concours d'étrangers y était immense. On venait à Mélenchon pour 1000 affaires diverses, et l'ordre établi défendait de rien refuser à personne. Le jeune professeur était surtout habile à s'effacer quand il s'agissait de faire le bien. S'il n'avait plus d'argent, il portait en cachette sa vaisselle à quelques marchands, se souciant peu de s'en priver, pourvu qu'il eût de quoi soulager ceux qui souffraient. Aussi lui eût-il été impossible de pourvoir à ses besoins et à ceux des siens, dit son ami Camerarius, si une bénédiction divine et cachée ne lui en eût fourni de temps en temps les moyens. Sa débonnaireté était extrême. Il avait des médailles antiques, d'or et d'argent, remarquables par leur inscription et leur figure. Il les montra un jour à un étranger qui lui faisait visite. « Prenez, lui dit Mélenchon, celles que vous désirez. »«
Je les désire toutes, répondit l'étranger. »
J'avoue, dit Philippe, que cette demande indiscrète m'offensa d'abord. Néanmoins, je les lui donnai. Il y avait dans les écrits de Mélenchon un parfum d'antiquité qui n'empêchait pas pourtant que la bonne odeur de Christ ne s'exhalât de toutes parts et qui leur donnait un charme inexprimable. Il n'y a pas une de ses lettres à ses amis où ne se trouve rappelée de la manière la plus naturelle la sagesse d'Homère, de Platon, de Cicéron et de Pline, Christ demeurant toujours son maître et son Dieu. Spalatin lui avait demandé l'explication de cette parole de Jésus-Christ « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Mélenchon le renvoie à Luther. « Cur agam gestum spectante Rossio ?»« Pourquoi déclamerais-je en présence de Rossius pour parler avec Cicéron ?» dit-il. Puis il poursuit. « Ce passage signifie qu'il faut que nous soyons absorbés par Christ, en sorte que nous n'agissions plus, mais que Christ vive en nous. Comme la nature divine a été incorporée à l'homme en Christ, aussi faut-il que l'homme soit incorporé à Jésus-Christ par la foi. » L'illustre savant se couchait habituellement peu de temps après son souper. À 2 ou 3 heures du matin, il était à l'ouvrage. C'est dans ces heures matinales que ses meilleurs écrits furent composés. Ses manuscrits se trouvaient d'ordinaire sur sa table, exposés à la vue de tous ceux qui allaient et venaient, en sorte qu'on lui en vola plusieurs. Quand il avait invité quelques amis, il priait l'un ou l'autre de lire avant le repas quelques petites compositions en prose ou en vers. Dans ses voyages, il se faisait toujours accompagner par quelques jeunes gens. Il s'entretenait avec eux d'une manière à la fois instructive et en douceur. « Il pique et il coupe, disait-il de lui-même, et ne fait cependant aucun mal. » La science était sa passion. Le but de sa vie était de répandre les lettres et les lumières. N'oublions pas que les lettres, pour lui, c'était avant tout les saintes écritures, et ensuite seulement la science des païens. « Je ne m'applique, disait-il, qu'à une chose, la défense des lettres. Il faut, par notre exemple, enflammer la jeunesse d'admiration pour les lettres et faire qu'elle les aime pour elle-même et non pour le profit qu'on en peut tirer. La ruine des lettres entraîne la désolation de tout ce qui est bon, religion, mœurs, choses de Dieu, choses de l'homme. Plus un homme est bon, plus est grande l'ardeur qu'il met à sauver les lettres, car il sait que de toutes les pestes, l'ignorance est la plus pernicieuse. » Quelque temps après son mariage, Mélenchon se rendit dans le Palatinat, à Bretagne, pour visiter sa tendre mère dans la compagnie de Camerarius et d'autres amis. Lorsqu'il aperçut sa ville natale, il descendit de cheval, se jeta à genoux et rendit grâce à Dieu de ce qu'il lui permettait de la revoir. Marguerite, en embrassant son fils, s'évanouit presque de joie. Elle voulait qu'il restât à Bretagne et le pria avec instance de demeurer dans la foi de ses pères. Mélenchon s'excusa à cet égard, mais avec beaucoup de ménagement, dans la crainte de blesser la conscience de sa mère. Il eut bien de la peine à se séparer d'elle, et chaque fois qu'un voyageur lui apportait des nouvelles de sa ville natale, il se réjouissait comme s'il fût revenu, disait-il, aux joies de son enfance. Tel était dans son intérieur l'un des plus grands organes de la révolution religieuse du XVIe siècle. Une émeute vint cependant troubler les scènes domestiques et l'activité studieuse de Wittenberg. Les étudiants en vinrent aux prises avec les bourgeois. Le recteur montra beaucoup de faiblesse. On peut penser quelle fut la tristesse de Mélenchon en voyant ses disciples des lettres tomber dans de tels excès. Luther s'indigna. Il était loin de vouloir gagner les esprits par une fausse condescendance. L'opprobre que ses désordres jetaient sur l'université lui perçait l'âme. Il monta en chaire et prêcha avec force contre ces séditions, invitant les deux parties à se soumettre au magistrat. Son discours excita une grande irritation. « Satan, dit-il, ne pouvant nous attaquer au dehors, veut nous nuire au dedans. Je ne le crains pas, mais je crains que la colère de Dieu ne nous frappe, parce que nous n'avons pas assez bien reçu sa parole. Durant ces 3 dernières années, j'ai été exposé 3 fois à de grands dangers, en 1518 à Augsbourg, en 1519 à Leipzig et maintenant en 1520 à Wittenberg. Ce n'est ni par la sagesse, ni par les armes que l'œuvre du renouvellement de l'Église s'accomplira, mais par d'humbles prières et par une foi courageuse qui mette Jésus-Christ avec nous. Ô mon ami, joins tes oraisons aux miennes, de peur que le mauvais esprit ne se serve de cette petite étincelle pour allumer un vaste incendie. » Livre 6, chapitre 6, l'Évangile en Italie, discours sur la messe, la captivité babylonienne de l'Église, le baptême, abolition des autres vœux. Mais de plus terribles combats attendaient Luther. Rome brandissait le glaive dont elle allait frapper l'Évangile. Le bruit de la condamnation qui devait l'atteindre, loin d'abattre le réformateur, augmenta son courage. Il s'inquiète peu de parer les coups de cette puissance superbe, s'est emportant lui-même de plus terrible qu'il rendra inutile ceux de ses adversaires. Tandis que les congrégations transalpines fulminent contre lui leurs anathèmes, il portera le glaive de la parole au sein des peuples italiens. Des lettres de Venise parlaient de la faveur avec laquelle on y accueillait les sentiments de Luther. Il brûle du désir de faire passer les Alpes à l'Évangile. Il faut que les évangélistes l'y transportent. « Je désirerais, dit-il, que nous eussions des livres vivants, c'est-à-dire des prédicateurs, et que nous puissions les multiplier et les protéger partout, afin qu'ils transmissent au peuple la connaissance des choses saintes. Le prince ne pourrait faire une œuvre plus digne de lui. Si le peuple d'Italie recevait la vérité, alors notre cause serait inattaquable. » Il ne paraît pas que ce projet de Luther se soit réalisé. Plus tard, il est vrai, des hommes évangéliques, Calvin lui-même, firent quelques séjours en Italie. Mais pour le moment, le dessein de Luther n'eut pas de suite. Il s'était adressé à un puissant du monde. S'il avait fait appel à des hommes humbles, mais pleins de zèle pour le royaume de Dieu, l'issue eût été bien différente. À cette époque, on avait l'idée que tout devait se faire par les gouvernements, et l'association de simples individus, cette puissance qui opère maintenant de si grandes choses dans la chrétienté, était presque inconnue. Si Luther ne réussissait pas dans ses projets pour répandre loin la vérité, il n'en était que plus zélé à l'annoncer lui-même. Ce fut alors qu'il prononça à Wittenberg son discours sur la Sainte Messe. Il s'y éleva contre de nombreuses sectes de l'Église romaine et lui reprocha avec une haute raison son manque d'unité. « La multiplicité des lois spirituelles, dit-il, a rempli le monde de sectes et de divisions. Les prêtres, les moines et les laïcs en sont venus à se haïr plus que ne le font les chrétiens et les turcs. Que dis-je ? Les prêtres entre eux, les moines entre eux, sont ennemis à mort. Chacun est attaché à sa secte et méprise toutes les autres. Ça n'est fait de l'unité et de la charité de Christ. » Puis il attaque l'idée que la messe soit un sacrifice et quelque puissance en elle-même. « Ce qu'il y a de meilleur dans tout sacrement, et par conséquent dans la scène, dit-il, ce sont la parole et les promesses de Dieu. Sans la foi à cette parole et à ses promesses, le sacrement est mort. Il est un corps sans âme, un vase sans vin, une bourse sans argent, un type sans accomplissement, une lettre sans esprit, un étui sans diamant, un fourreau sans épée. » La voix de Luther n'était pourtant pas renfermée dans Wittenberg, et il ne se trouva pas des missionnaires pour porter au loin ses instructions. Dieu avait pourvu à un missionnaire d'un nouveau genre. L'imprimerie devait remplacer les évangélistes. La presse devait battre en brèche la forteresse romaine. Luther avait préparé une mine dont l'explosion ébranla l'édifice de Rome jusque dans ses fondements. Ce fut la publication de son fameux livre sur la captivité babylonienne de l'Église qui parut le 6 octobre 1520. Jamais homme, dans une situation aussi critique, n'avait montré tant de courage. Il expose d'abord dans cet écrit, avec une superbe ironie, tous les avantages dont il est redevable à ses ennemis. « Que je le veuille ou non, dit-il, je deviens de jour en jour plus savant, poussé comme je le suis par tant de maîtres célèbres. Il y a 2 ans, j'attaquais les indulgences, mais avec tant d'indécision et de crainte que maintenant j'en ai honte. » Il ne faut pourtant pas s'en étonner, car j'étais seul alors à rouler ce rocher. Il rend grâce à Priario, à Eck, à Emser et à ses autres adversaires. Je niais, poursuivit-il, que la papauté fût de Dieu, mais j'accordais qu'elle était de droit humain. Maintenant, après avoir lu toutes les subtilités sur lesquelles ces damnerés établissent leur idole, je sais que la papauté n'est que le royaume de Babylone et la violence du grand chasseur Nimrod. Je prie donc tous mes amis et tous les libraires de brûler les livres que j'ai écrits à ce sujet et de leur substituer cette proposition unique. La papauté est une chasse générale commandée par l'évêque romain pour atteindre et perdre les âmes. Luther attaque ensuite les erreurs dominantes sur les sacrements, sur les vœux monastiques, etc. Il réduit à trois, baptême, pénitence et sainte cène, les sept sacrements de l'Église. Il expose la véritable nature de la scène du Seigneur. Puis il passe au baptême, et c'est ici surtout qu'il établit l'excellence de la foi et qu'il attaque Rome avec puissance. « Dieu, dit-il, nous a conservé ce seul sacrement net des traditions humaines. Dieu a dit, celui qui aura cru et qui a été baptisé sera sauvé. Cette promesse de Dieu doit être préférée à tout l'éclat des œuvres, à tous les vœux, à toutes les satisfactions, à toutes les indulgences et à tout ce que l'homme a inventé. Or, de cette promesse, si nous la recevons avec foi, dépend tout notre salut. Si nous croyons, notre cœur est fortifié par la promesse divine, et quand tout abandonnerait le fidèle, cette promesse qu'il croit ne l'abandonnerait pas. Avec elle, il résistera à l'adversaire qui fond sur son âme, et il répondra à l'impitoyable mort et au jugement même de Dieu. Sa consolation dans toutes ses épreuves sera de dire « Dieu est véritable en ses promesses, j'en ai reçu le gage dans le baptême. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Oh, que le chrétien, que le baptisé est riche, rien ne peut le perdre, à moins qu'il ne se refuse à croire. Peut-être qu'à ce que je dis sur la nécessité de la foi, on opposera le baptême des petits-enfants. Mais comme la parole de Dieu est puissante pour changer même le cœur d'un impie, qui n'est pourtant ni moins sourd ni moins inhabile qu'un petit-enfant, de même aussi la prière de l'Église, à qui toutes ces choses sont possibles, change le petit-enfant par la foi qu'il plaît à Dieu de verser dans son âme et ainsi le nettoie et le renouvelle. Après avoir exposé la doctrine du baptême, Luther s'en sert comme d'une arme contre la papauté. En effet, si le chrétien trouve son salut dans le renouvellement de son baptême par la foi, qu'a-t-il besoin des prescriptions de Rome ? C'est pourquoi, dit Luther, je le déclare, ni le pape, ni l'évêque, ni quelque homme que ce soit n'a le pouvoir d'imposer la moindre chose à un chrétien, à moins que ce ne soit avec son consentement. Tout ce qui se fait autrement se fait tyranniquement. Nous sommes libres à l'égard de tous. Le vœu que nous avons fait dans le baptême suffit à lui seul et est plus que tout ce que nous pouvons jamais accomplir. Tous les autres vœux peuvent donc être abolis. Que quiconque entre dans le sacerdoce ou dans un ordre religieux comprenne bien que les œuvres d'un religieux ou d'un prêtre, quelque difficiles qu'elles puissent être, ne diffèrent en rien devant Dieu de celles d'un paysan qui travaille à son champ ou d'une femme qui prend soin de sa maison. Dieu estime toutes choses d'après la foi, et il arrive souvent que le simple travail d'un serviteur ou d'une servante est plus agréable à Dieu que les jeûnes et les œuvres d'un moine parce que la foi manque à ceci. Le peuple chrétien est le véritable peuple de Dieu transporté en captivité à Babylone, et on lui a ravi ce que le baptême lui avait donné. Telles étaient les armes par lesquelles s'accomplissait la révolution religieuse dont nous retraçons l'histoire. D'abord, la nécessité de la foi était rétablie. Et alors, les réformateurs s'en servaient comme d'une massue pour pulvériser les superstitions. C'était avec cette puissance de Dieu qui transporte des montagnes qu'ils attaquaient tant d'erreurs. Ces paroles de Luther et tant d'autres semblables, répandues dans les cités, dans les couvents, dans les campagnes, étaient le levain qui faisait lever toute la pâte. Luther termine ce fameux écrit sur la captivité de Babylone par ces paroles. « J'apprends que de nouvelles excommunications papales doivent avoir été fabriquées contre moi. S'il en est ainsi, on peut regarder le présent livre comme une partie de ma future rétractation. Le reste suivra bientôt. » Pour faire preuve de mon obéissance, et le tout formera, avec l'aide de Christ, un ensemble tel que Rome n'aura jamais rien vu ni entendu de pareil. »